bien sûr, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Vous vous doutez bien, le message sera axé sur les pères. Mais je veux dire dans un premier temps, mes sœurs, ceci est pour vous aussi. C'est dans la Bible, ceci est pour tous, même si ceci s'applique, ce que je vais dire là dans quelques instants, s'applique premièrement aux hommes. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne doit et peut en tirer des leçons. Tout comme lorsqu'on a eu le message lors de la fête des mères, oui, axé sur les mères, mais valable pour tous. Ce sera pareil ce matin. J'ai commencé à réfléchir justement sur les pères. Et je loue le Seigneur pour mon père. Beaucoup ici le connaissent. Je loue le Seigneur de m'avoir placé dans cette famille avec ses parents qui aiment le Seigneur, qui m'aiment, moi, mes frères. Et je commençais à réfléchir au père dans la Bible. Parce que moi, je regarde mon père et je me dis, voilà, un exemple à suivre. Et on commence à regarder dans la Bible et on se rend compte qu'il y a quand même très peu de bons exemples de pères dans la Bible. Et Dieu l'a voulu ainsi, mais moi je trouvais ça quand même assez étrange. Il y a très peu d'exemples de bons pères dans la Bible. Et lorsqu'on commence à réfléchir sur ces grands hommes dans la Bible, on se rend compte que certains avaient de grands défauts, malgré tout ce qu'ils ont fait pour Dieu. Regardons Noé. Noé, lui, construit l'arche, il agit avec foi, il prêchait et interpellait les gens. Et on voit ce qui se passe par la suite après le déluge. Ses fils qui s'égarent, surtout Shem. Ça se passe pas trop bien. On pense à Abraham, ce grand homme de foi, sa foi qui lui était imputée à justice. Il ne sera pas un bon mari. Il va essayer de faire passer sa femme pour sa sœur, pour conserver sa propre vie. Vous imaginez? Et puis, il va assez bien élever Isaac. Mais on va un peu plus loin et on parle de Jacob. Jacob qui, lui, en grandissant, n'agissait pas toujours comme il fallait. Et puis, quand lui, il aura des fils, il va préférer Joseph aux autres. Et cela va causer des problèmes, va stimuler la jalousie et la colère de ses frères. Ce Jacob, et pourtant on dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a changé son nom en Israël, a fait de lui cette grande nation. Et pourtant, oui, on voit ce grand défaut. On pense à David, grand homme, homme extraordinaire, ami de Dieu, qui avait vraiment une forte relation avec Dieu, que Dieu a utilisé grandement en Israël. Et pourtant, il avait de grands défauts. Son péché avec Bathsheba. On voit le fruit de cela, Salomon, et on viendra à lui dans quelques instants, mais David était loin d'être le père modèle. Il avait plusieurs femmes, il avait tous ses enfants et tout. Et effectivement, on arrive à Salomon, et l'homme le plus sage au monde. Et pourtant, on voit toutes les erreurs qu'il a faites, et on voit son fils Roboam, qui pourtant a bénéficié de l'enseignement de son père. Et là, il va prendre cette décision désastreuse d'écouter les conseillers de son âge, ses amis, et de rejeter le conseil des anciens conseillers de son père David. Et c'est là où le schisme aura lieu et le royaume sera divisé. Donc Salomon était loin d'être un père et aussi un mari modèle. Et on pourrait multiplier des exemples, mais je crois que cela suffit au moins pour les exemples dans la Bible. Et lorsqu'on regarde autour de nous, on se dit, le monde ne propose en aucun cas un modèle à suivre. N'est-ce pas? De plus en plus, le monde va dans un sens qui est contraire à Dieu et à sa parole. Et si on ne s'arrêtait qu'au modèle du monde et on regardait autour de nous, vite fait, on deviendrait découragé. Je vous le dis parfois, je regarde autour de moi, je vois l'exemple d'hommes et de familles dans le monde. Et c'est décourageant, n'est-ce pas? Vous avez certainement fait cette même expérience. L'autorité parentale et surtout paternelle, donc le père, le mari, cette autorité est déniée, voire rejetée. Ce sont les enfants qui commandent, la femme qui dirige, et on voit que ce modèle n'est pas bon. Alors, on regarde tout autour et on se dit, mais où est le bon modèle? Qu'est-ce qu'on devrait faire à la fois et surtout en tant que père, en tant que mari, en tant que chef de famille que Dieu a mis en place, mais aussi dans la famille et dans notre vie chrétienne? Que devons-nous faire? Y a-t-il un exemple concret vers lequel nous pouvons regarder? Et oui, je suis convaincu que nous en avons un et on le verra ce matin. Mais il est essentiel pour nous aujourd'hui, plus que jamais, de prendre cette décision, d'être prêt à prendre cette décision, de suivre l'exemple que nous verrons. J'aime bien l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe, Dieu se révèle à lui et Dieu pose cette question, mais qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et Ésaïe, sans savoir quelle sera sa mission, dit, me voici, envoie-moi. Et puis après, il se rend compte qu'il est envoyé vers un peuple qui va le rejeter, qui ne l'écoutera pas, il n'aura pas le succès, au moins aux yeux des hommes. Mais Ésaïe, dès le départ, même sans savoir ce que Dieu va lui demander de faire, dit, j'irai, je le ferai, Seigneur. Alors, que ce soit notre mentalité également, dès le départ, ce matin. Et avec ces quelques paroles d'introduction, je vous invite à aller avec moi dans le livre de Job. Le livre de Job. Alors, une première chose que je dois dire, c'est que Job était loin d'être parfait. Job n'était pas parfait. Donc, ne vous faites pas l'idée que nous sommes en train de voir un modèle parfait. Non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, Job était un homme extraordinaire qui nous montre quand même un modèle, un exemple à suivre. Job, bien sûr, connu pour ses souffrances, il perd tout, et on parlera un peu de cela, et pourtant un homme qui est resté fidèle à Dieu, malgré toutes les questions qu'il posait, malgré toutes ses souffrances, malgré le rejet de tous ceux qui l'entouraient, il est resté fidèle à Dieu quand même. Mais on voit au chapitre 1, c'est là où nous commencerons ce matin, au chapitre 1, il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Donc cet homme a bel et bien existé. Il était là et regardez la toute première chose que la Bible dit sur cet homme. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et j'ai lu ce premier verset et je me suis dit, si quelqu'un devait écrire sur ma vie, et vous pouvez poser la même question, pourrait-il commencer avec cette affirmation? Voici un homme, et là, mes sœurs, une femme, qui est intègre, droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Quelqu'un pourrait-il dire cela de notre vie? J'espère que oui. Et c'est le point de départ. Parce que c'est la première chose que Job nous montre. La première chose dont parle la Bible, c'était quand même la chose essentielle. Et on voit que Job avait sa propre relation avec Dieu. On va entrer un peu dans les détails dans quelques versets plus loin. Mais il avait sa propre relation avec Dieu, parce que sinon, il ne serait pas intègre. Sinon, il ne serait pas droit. Il ne craignerait pas Dieu et certainement il ne se détournerait pas du mal. Alors, Job avait sa propre relation avec Dieu et c'est quelque chose qui l'entretenait. Il y avait un effort. Cela n'est pas venu juste comme ça, par le hasard. Pif, un jour, Job se lève et là, d'un seul coup, il est intègre. D'un seul coup, il est droit. Non. C'est une décision que Job prenait chaque jour de suivre cette voie. Il craignait Dieu. Il avait cette crainte respectueuse de Dieu. Il n'avait pas la Bible telle que nous l'avons. Job était sûrement un des premiers livres de la Bible. écrit, même si la Genèse parle des choses qui se sont passées avant Job, Job était sûrement le premier livre écrit, donc on parle de très très loin, tout au début de la rédaction de la Bible, donc il ne bénéficiait pas de tout dont nous bénéficions aujourd'hui, et pourtant c'était quelqu'un qui craignait Dieu, il avait sa relation avec Dieu, et puis il se détournait du mal. Et ceci est extraordinaire, parce que il faisait ce choix délibéré à chaque instant de placer le mal là, de fuir, tourner le dos et partir le plus rapidement que possible. Il n'essayait pas de voir jusqu'à quel point il pouvait s'approcher pour dire « Ah oui, je peux aller là, mais pas plus, mais pas plus. » Non, il s'éloignait autant qu'il pouvait du mal. Et c'était quelque chose de constant, parce qu'il y avait les tentations. Il va en parler. Il va dire, mais j'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc il y a la tentation. Il y avait la tentation dans la vie de Job. Et Job dit, mais je vais me détourner. Je risque d'aller sur la mauvaise voie. Je risque de tomber dans la tentation. Alors je vais me détourner. Je vais changer de conduite. Et c'était un choix délibéré que Job faisait systématiquement. Et de manière constante. Il ne se laissait pas entraîner avec tous ceux qui l'entouraient. Non. Job était différent. Et il était reconnu pour cela. Dans la suite du livre, il va proclamer son innocence. Et il avait raison. Job ne souffrait pas parce qu'il avait péché. Job ne souffrait pas parce qu'il s'était écarté de Dieu. Non. Job souffrait parce qu'il était mis à l'épreuve. Donc Job, il était dans ce sens innocent. Il n'était pas parfait, bien sûr, mais il se détournait du mal. Il avait cette relation avec Dieu qu'il entretenait de manière systématique. Et si la Bible en parle dans son premier verset et pose cela comme le fondement de la vie de Job, c'est que c'est quelque chose de très important. Et si aujourd'hui, dans notre monde qui va de travers de plus en plus et qui s'écarte et s'éloigne des principes bibliques, remet en question tout, où les rôles sont inversés, les hommes agissent comme des femmes parfois, les femmes qui agissent comme des hommes, on remet tout en question, tout est de travers, il nous faut, comme Job, avoir notre relation personnelle avec Dieu. Parce que sinon, le reste ne pourra pas suivre. Et ce n'était pas le hasard, ce n'était pas juste comme ça un jour, mais dans la continuité, Job, lui, il faisait toutes ces choses. Et la question à se poser, c'est, le faisons-nous? Il faut déjà avoir le désir. Et ce désir doit se transformer en action. De dire, Seigneur, tu m'appelles à être différent. Tu m'appelles à suivre tes principes. Je veux le faire maintenant. Aide-moi à le faire. Donc voilà, Job avait sa propre relation avec Dieu. Et puis, verset 2, on a cette merveilleuse nouvelle à propos de Job. Il lui naquit 7 fils, 3 filles. Donc 10 enfants, une merveilleuse famille, formidable. Verset 3, on va parler de ses biens. Il en avait beaucoup. C'était un homme très riche. Et la fin de verset 3 nous précise même que cet homme, Job, était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Tout le monde connaissait Job. Il était quelqu'un qui a bien réussi. Tout le monde le connaissait. Et du coup, dans sa réussite, et je peux dire même malgré sa réussite, il a su quand même donner une bonne direction à sa famille et il a pu bien élever ses enfants. Et vous allez dire, mais Robert, où est-ce que tu vois ça? Regardez verset 4. Ceci est quand même assez extraordinaire. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et lorsqu'on voit ce verset 4, croyez-vous que si ses enfants ne s'entendaient pas bien entre eux, qu'ils auraient fait une chose pareille? Ce verset 4 nous montre que quand même, Job avait cultivé parmi ses enfants une bonne relation. Il avait enseigné à ses enfants à se respecter mutuellement, à manifester de l'amour, qu'il y ait égalité. Il n'était pas tout le temps chez l'un et jamais chez l'autre, non. À tour de rôle, là, ils allaient chez les uns et les autres. Et puis, ils n'écartaient personne. Bien sûr, les garçons, ils étaient ensemble. Et vous savez, parfois, quand les gars, ils se mettent ensemble, ils se comportent comme des gars. Mais là, ils n'ont pas exclu leur sœur. Non, ils ont inclus leur sœur. Ils étaient là, tous ensemble. Et Job, apparemment, avait cultivé parmi ses enfants cet amour, ce respect les uns pour les autres. Et que c'est beau. Et vous le savez également, quand les enfants, ils s'entendent bien entre eux, qu'est-ce que les parents, ils sont contents. Qu'est-ce que c'est merveilleux quand il n'y a pas de disputes, quand les uns ne s'énervent pas contre les autres et tout. Là, on va dire, mais c'est le ciel, c'est formidable, c'est merveilleux. Malheureusement, ça n'arrive que très rarement, vous le savez. Je pourrais vous raconter des choses que mes frères et moi, on faisait. On en faisait des bêtises et on se chamaillait pas mal. Mais quand il y a ce respect, quand il y a cet amour qui se manifeste entre les enfants, c'est quelque chose de formidable, de très beau. Et Job, apparemment, il avait cultivé cela chez ses enfants. Parce que ça ne vient pas tout seul. Les enfants laissés à eux-mêmes n'ont pas le comportement qu'on voit ici. Non, ils vont être égoïstes, ils vont exclure, ils vont se retirer, il y aura des problèmes, il y aura des conflits. Donc manifestement, Job, il avait fait un travail parmi ses enfants pour justement cultiver cet amour, ce respect, cette humilité les uns envers les autres. Pas d'exclusion, non, tous étaient là. Et puis, verset 5, on en parle quand même assez souvent, mais il est bien de se le rappeler. Quel témoignage. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Et on voit Job qui intercède pour ses enfants. Là, il prie. Il prie pour ses enfants. Et les parents doivent, de manière régulière, prier pour leurs enfants. Et le mari doit être le moteur, là. Le mari doit être celui qui est à la base de ses prières, qui dit, voilà, je vais prier pour mes enfants. Ils subissent la tentation. Ils sont pécheurs par nature. Ils vont tomber dans une voie qui ne plaît pas à Dieu si je ne prie pas pour eux. Ils vont s'égarer, ils vont s'écarter si, de manière délibérée, je ne prie pas pour eux. Bien sûr, ils sont responsables de leur choix, absolument, chacun l'est. Mais les parents et surtout les pères ont cette responsabilité de prier pour leurs enfants. Et Job, il nous donne cet exemple. Et c'est merveilleux parce qu'il dit, peut-être, ils n'étaient pas forcément au courant d'un péché quelconque dans leur vie, mais il dit, juste au cas où, il se peut qu'un de mes enfants ait péché et ait offensé Dieu. Et là, je vais prier. Je vais prier pour que Dieu ait compassion, miséricorde, que Dieu pardonne, que le cœur de cet enfant soit touché, qu'il se repente si jamais il a fait quelque chose. Et la fin de ce verset, c'est là la clé. Job avait l'habitude de faire cela. Ce n'était pas une chose sporadique. Vous savez, les choses sporadiques, on les fait quand on y pense. Ah oui, tiens, je devrais faire ça. Ouais, ce serait bien. J'ai oublié, mais bon, c'est pas très grave. Je le ferai la prochaine fois. Ce n'est pas du tout l'attitude de Job. Non, Job, il avait l'habitude, ce mot « coutume », d'agir de cette façon. C'était quelque chose de régulier. comme manger, c'était comme respirer. On ne se passe pas de respirer, n'est-ce pas? Sinon on meurt, c'est logique. On ne se passe pas de manger, sinon même résultat. Et ici, Job ne pouvait pas se passer de prier de manière régulière pour ses enfants. Et père, le faites-vous? Le jour où, par la grâce de Dieu, je serai père, le ferai-je? Je prie que oui. Mais encore une fois, cela demande de l'effort. Vous savez, prier, ça prend du temps. Et du temps que Satan nous dit, on pourrait utiliser ailleurs. On est tellement occupé. On a le travail, on a toutes nos occupations habituelles, on a les différentes choses que nous devons faire. Hein. Et si nous ne faisons pas attention, on se laisse envahir par toutes ces autres choses parfois très légitimes. Et on se dit, bon, j'ai pas trop le temps. Et on se passe de prier pour ses enfants. Et Satan voudrait cela. Mais Dieu, il veut que les pères, ils prient pour leurs enfants. Et bien sûr, je suis convaincu, Job, même si le texte n'est pas explicite à ce propos, je suis convaincu que Job, il priait pour sa femme aussi. Et ça, on verra dans quelques instants. Mais Job était un homme de prière. Bien sûr, il était droit, il était intègre, craignait Dieu, se détournait du mal. Mais il faisait toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Le sommes-nous? Le sommes-nous réellement? Souvent, nous en avons le désir. Gloire à Dieu, amen. Alors, la suite, y en a-t-elle de suite? J'espère que oui. Job, il était, et aujourd'hui, plus que jamais, les pères, les hommes, ont besoin d'être des hommes de prière. Et bien sûr, les femmes aussi. Ensuite, à partir de verset 6, nous ne prendrons pas le temps de lire ceci, mais pour résumer, vous le savez, Satan, il vient, il se présente devant Dieu. Et ce n'est pas Satan qui accuse Job. C'est Dieu qui présente Job en disant, ben, « Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Et ce texte, il est quand même difficile à comprendre, parce qu'on se dit, « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Là, tu donnes l'occasion à Satan de toucher un de tes enfants, de le mettre à mal, de lui enlever tout, et tu le mets en avant. Mais c'est quel Dieu, là? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu savait très bien ce qu'il fallait. Il savait que, oui, Job avait besoin de cela, et il savait que Job pouvait le supporter, sinon il ne l'aurait jamais fait. Et bien sûr, Job, il passe par cette épreuve, ces souffrances terribles, la perte de tous ses biens. Et je crois que, à la limite, ça, on pourrait supporter, n'est-ce pas? On enlève tous ses biens, c'est dur, c'est difficile, mais là, ok, on arrive à surmonter cela. Et puis, d'un seul coup, il perd ses 10 enfants. Là, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. L'enlèvement des biens, on les remplace, pas de problème. Ce ne sont que des choses matérielles. La famille, on touche à la famille, surtout ses enfants, pour vous qui êtes parents. Alors là, on monte d'un cran. Là, on passe au niveau supérieur. Et le témoignage de Job dans ces moments, verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il lui restait lui et sa femme. Et Job, au sein de cela, a pu dire, Dieu est souverain, comme le chant que Eric a chanté, Dieu y fait tout ce qu'il veut. Qui suis-je, moi, de dire à Dieu, Dieu, tu n'as pas le droit, Dieu, tu ne devrais pas. Il reconnaît, Dieu a donné, ben, Dieu a repris, Dieu a ôté. Et il ne termine pas en disant, mais j'en veux à toi, Seigneur. Je sais que tu fais toutes choses, mais quand même, je m'en veux à toi. Non, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Et qu'est-ce qui a permis à Job d'avoir cette réaction-là? Ben, c'est à cause de sa vie au début de chapitre 1. Sa vie de prière, sa relation avec Dieu. Et si dans ma vie, je n'ai pas cette réaction-là de Job, si je commence à me remonter un peu contre Dieu, si je commence à avoir ces pensées où je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, et je commence à avoir ces pensées où je m'en veux à Dieu, c'est parce que quelque part, je n'ai pas entretenu ma relation avec Dieu. Je n'avais pas vraiment la vie de prière que je devais avoir. Mais là, Job, face à son épouse, qui elle, passait par les mêmes choses, hein, elle avait vu la perte de toutes ces choses. C'était quand même aussi ses enfants. Et ça a dû la toucher. On va voir sa réaction dans quelques instants. Mais elle aussi, elle est passée par là. Et imaginez-vous sa réaction lorsqu'elle a entendu Job dire « Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et elle a dû se dire « Mais Job, tu ne te rends pas compte. Nos enfants, ils sont partis. Nous n'avons plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Catastrophe, désastre. Et d'entendre Job parler de cette façon, imaginez le témoignage. Et le mari, le père, dans une famille, peut avoir ce témoignage, à condition d'avoir conservé et d'avoir fortifié sa relation avec Dieu par la prière. Et c'est là au chapitre 2. Dieu a permis à Satan d'enlever tout ce que Job avait, tous ses biens, ses enfants, il lui reste sa femme, c'est tout. Et Dieu permet à Satan d'attaquer le corps de Job. Et au verset 7, le chapitre 2, Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Imaginez la souffrance. En dehors, à l'intérieur, partout sur son corps, il avait ses ulcères, ça grattait, c'était sensible. Ce dont on parle ici, c'était quelque chose de très sensible. Job, il était mal. Il était très mal. Et c'est là où, au verset 9, et on comprend presque sa femme. Malgré ce qu'elle a entendu Job dire au chapitre 1, elle dit, mais quand même, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Maudis Dieu et meurs. Alors, récemment, j'écoutais plutôt... un message sur ce passage et quelqu'un avait dit, oui, la femme de Job, c'était un peu pour finir avec ta souffrance, si tu maudis Dieu, il va te tuer, donc ce sera de loin le meilleur, comme ça tu ne seras plus dans la souffrance, et voilà, donc maudis Dieu, meurs, et la personne essayait de dire, c'était un peu des mots de compassion, tu seras fini avec cette souffrance et tout. Moi, ce n'est pas ce que je vois ici. Non, malheureusement, la femme de Job, elle n'en pouvait plus. Elle avait vu, comme j'ai dit, la perte de toutes ces choses. Elle avait perdu ses 10 enfants. C'était les siens aussi. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi il passait par cette souffrance, cette épreuve. Et du coup, elle n'en peut plus. Et là, elle s'en prend à Dieu. Et elle pousse Job à faire de même. Maudit Dieu et meurt. Alors qu'elle était censée être son compagnon, son soutien, l'accompagner. Ils étaient censés faire face à cela à deux. Et là, malheureusement, elle n'est pas à la hauteur. Et malgré cela, la réponse de Job. Imaginez-vous, mettez-vous un peu à la place de Job. Vous entendez cela, vous avez tout perdu, vous êtes mal. Littéralement, vous êtes mal dans votre peau. Vous êtes malade, mais de chez malade. Rien ne va. Et encore plus, votre femme vous dit ça. Quelle serait votre réaction? moi, j'aurais dit, ouais, c'est ça, en colère, mais tu me parles comme ça, tu vois pas ce que je suis en train de faire, en train de vivre, toi aussi tu le vis, tu n'es pas à ma place, moi je souffre, au moins tu as la santé, mais tu vois pas. On peut facilement imaginer Job, enfin, l'un d'entre nous, quiconque, agir de cette façon. Et là, on peut penser que Job, il aurait dû craquer. Là, non, mais c'est le goutte qui fait déborder le vase. Non, mais on n'en peut plus. Là, c'est de trop. Jusque-là, j'arrivais, mais là, c'est de trop. Non, je n'en peux plus. J'arrive facilement à m'imaginer cette scène, pas vous? Parce que moi, sûrement, j'aurais réagi comme cela. Mais qu'est-ce que Job dit? Nous le savons, mais est-ce que ceci nous marque autant que cela devrait? Job lui répondit, verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. » Il n'était pas en train de la juger, mais il constatait que tout simplement, ce qu'elle disait n'était pas du tout correct, n'était pas du tout ce qu'il fallait. Quoi? Nous recevons du bien, de Dieu, pardon, le bien. Tout le monde aime ça. Recevoir les bontés de Dieu, recevoir sa miséricorde, son pardon, sa fidélité, sa grâce. Qui ne veut pas cela? C'est formidable. Amen. Et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et nous ne recevrions pas aussi le mal? Job, au sein de sa souffrance, alors qu'il est littéralement tout seul, tout le monde l'a lâché. Il n'a plus rien. Mais vraiment plus rien. Et dans ce moment-là, il comprend qu'il ne peut pas nier Dieu, que même si rien ne va, Dieu était quand même souverain. Dieu contrôlait. Et même ces mauvaises choses, Job a compris que cela venait de Dieu. C'est son témoignage à travers tout ce livre. Voilà pourquoi il veut s'entretenir avec Dieu. Il veut parler avec Dieu, parce qu'il sait que toutes ces choses viennent de sa main. Il sait que Dieu n'est pas impuissant et que ces choses ne dépassent pas Dieu. Il n'arrive pas à réconcilier comment le Dieu qu'il connaissait pouvait permettre tout cela, mais il sait quand même que toutes ces choses viennent de Dieu. Et il dit, nous acceptons volontiers les bonnes choses de la main de Dieu, gloire à Dieu, et Dieu veut les donner. C'est formidable. Mais quand Dieu permet les mauvaises choses, devrions-nous le remettre en question? Devrions-nous nous plaindre? Devrions-nous tomber dans le désespoir et dans le découragement? Absolument pas. Et si nous sommes honnêtes, malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous avons plutôt la réaction de la femme de Job, n'est-ce pas? Ben, j'en peux plus. J'en peux plus. Je lâche. Je baisse les bras. Et Job, il donne ce témoignage remarquable, cet exemple, alors qu'il avait tout perdu. Il était dans le mal extrême. Et il souffre, on peut dire presque injustement. Et il reconnaît que Dieu contrôle toutes choses. Et il a pu montrer cela à sa femme pour un peu la recadrer. Et en fait, sa femme, elle était encore là. Si on regarde jusqu'à la fin du chapitre, bah, sa femme, elle est toujours là. Donc son témoignage a eu un impact sur elle. Et Dieu va les bénir par la suite. Ils auront encore d'autres enfants et Dieu va restaurer Job à cause de son intégrité et tout. Mais Job, il dit, je reconnais que Dieu est souverain. Je ne prétends pas comprendre cela. Et justement, à travers ce livre, bah, il va essayer dans son esprit et à travers ses paroles de réconcilier ce qui lui arrive avec sa conception de Dieu. Et pourtant, fin de verset verset 10 de chapitre 2, la Bible proclame « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Job ne pécha point par ses lèvres. Avons-nous ce témoignage? Avons-nous ce témoignage? Oh, quelqu'un, peu importe les choses par lesquelles nous passons, des bons moments comme les mauvais, la personne peut dire « Oui, c'est dur, mais cette personne-là, je ne l'ai jamais entendu soit se plaindre, soit s'en prendre à Dieu, soit remettre en question et tout. » Est-ce que c'est notre témoignage? Moi, je dois dire que ce n'est pas le mien. Si nous sommes honnêtes, non, ce n'est pas le nôtre. Mais ça doit être notre aspiration. C'est l'exemple que Job nous donne. Et c'est Dieu qui nous rend capables d'avoir cette attitude. Et si Job, il a ce témoignage que par ses lèvres, il n'a pas péché, c'est que dans son cœur, il était entièrement convaincu que Dieu était là, que Dieu était souverain et que Dieu permettait toutes ces choses, que Dieu ne se trompait pas et qu'au final, Dieu allait rétablir toutes choses, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et Job nous montre cet exemple extraordinaire. Nous passons par des difficultés. Les familles sont attaquées aujourd'hui plus que jamais. On fait face à des tentations multiples à longueur de journée. Et les pères, dans ce sens, sont appelés à quitter leur poste de chef de famille, de dirigeants, d'exemples dans la famille. Ils sont appelés à être autre chose. La famille est attaquée de tous les côtés, des tentations qui viennent dans le travail, à travers les médias, un peu partout. Nous avons si peu d'exemples autour de nous. Alors, il nous faut revenir à l'exemple de Job et prendre cette décision. Et dire, je vais entretenir ma relation avec Dieu. Malgré toutes mes occupations, malgré toutes les choses que j'ai à faire, je vais mettre de côté du temps dans la prière. Et je vais prier avec ma famille. Je vais leur enseigner les principes bibliques. Nous aurons ces instants où je vais pouvoir les enseigner et les éduquer. Leur montrer ce qu'il ne faut pas faire, leur montrer ce qu'il faut faire, leur montrer ce que Dieu attend de nous. Pour que lorsque, et j'ai bien choisi ce mot, lorsque les temps difficiles arrivent, non pas si, parce que les temps difficiles, ils arriveront. Lorsque les temps difficiles arrivent, nous soyons capables, dans notre famille, d'avoir le témoignage de Job. Les hommes comme les femmes. De dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Nous recevrions du bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas aussi le mal. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Et peu importe les circonstances dans notre vie, cela doit être notre réaction. Et lorsque le Père, lui, il est solidement ancré dans sa relation avec Dieu et il s'appuie sur le Seigneur, il sera capable d'être l'homme, le dirigeant spirituel de sa famille. Il va pouvoir refléter Christ, il va pouvoir aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et la femme aussi, de son côté, lorsqu'elle entretient sa relation avec Dieu, bien sûr, elle va pouvoir se soumettre à sa femme et l'aider et l'aimer comme Dieu veut. Et puis, ses parents vont pouvoir instruire leurs enfants. Et Dieu promet de bénir ce travail. Mais cela commence avec l'homme. C'est tellement important. Alors, il faut prendre cette décision. Demander à Dieu de nous donner l'envie, le désir, bien plus que cela, d'aller au-delà. Avoir le désir, c'est très bien. Mais beaucoup de gens, ils ont de bons désirs, de bonnes envies, mais ils ne vont jamais au-delà. Alors nous, en tant que chrétiens, surtout en cette journée spéciale, particulière, où on met l'accent sur les pères, et cela est juste, convenable, il faut le faire. Souvenons-nous que les pères sont appelés à ressembler à Job, imiter la vie de Job, et que chacun d'entre nous également est appelé à imiter la vie de Job. Comme Jacques il va dire, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et comme l'Épître aux Hébreux va dire, toutes ces grands hommes et femmes de la Bible, vous avez vu leur foi, imiter leur foi, imiter leur conduite. Il y a des progrès à faire. Si nous mesurons un peu à la vie de Job, il y a des manques. Il y a des progrès à faire, n'est-ce pas? Aucun de nous ne peut se dire arrivé. Alors demandons à Dieu de nous aider, de mettre en pratique sa parole, de suivre l'exemple de Job pour que nous soyons des hommes, des femmes, des familles qui brillent, qui aient un impact dans ce monde, autour de nous, ici à Vernon et dans les alentours, que nous puissions briller, faire cette différence pour le Seigneur aujourd'hui et pendant toute notre vie. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous sommes faibles. Nous nous écartons de ce que toi, tu as pour nous si souvent. Et que tu nous aides, Seigneur, à renouveler cet engagement envers toi, de suivre l'exemple de Job et de t'obéir comme lui. Il t'a obéi, Seigneur. Que notre témoignage soit celui de Job, qu'il était intègre, qu'il était droit, qu'il n'a pas péché avec ses lèvres. Seigneur, c'est ce que nous voulons, nous le désirons. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu nous rends capables d'aller jusqu'au bout, de changer, plutôt de te laisser nous changer, Seigneur, d'avoir les bonnes réactions, les bonnes pensées, les bonnes paroles. Et Seigneur, que nous puissions faire une différence, briller, montrer que c'est toi et ta vie qui vivent à travers nous, que nous ayons un impact, Seigneur, et que cela puisse être pour ton honneur.